Bonjour à tous. En venant ce matin, j'étais dans la voiture avec ma petite famille. Je me rappelais les liens que nous avons avec vous. Alors, c'est la première fois qu'on vient ici, mais je me rappelle quand on vient. Déjà, on vient du sud de la France avec Manon, et il y a 5 ans, on est arrivé dans le nord. Et le premier contact qu'on a eu avec quelqu'un de votre église, c'était Mallory, qui est là aujourd'hui. Donc, avec sa famille Soutif, on est heureux de vous revoir. Et puis ensuite, on a pu avoir la joie de connaître la famille Georgelle, puisque nous sommes les voisins de Maxime et Vanessa. Nous vivons dans le même immeuble. Et puis, du coup, ça a été l'occasion de développer nos relations. Puis, bien sûr, on a rencontré aussi la famille Nice. Par l'intermédiaire du réseau Alliance pour Christ. Et puis on a Élise qui est dans notre église aussi à Lille. Donc je fais partie de l'église de Porte des Postes. Et on est très heureux d'être là, de vous rencontrer. Et c'est dans cette église que nous avons eu la chance de rencontrer Monsieur Mouimpoundou Janvier, qui est là-bas au fond. Et c'est un plaisir de te revoir aussi. Alors ce matin, je vous proposais de partir dans 1 Timothée 2. Et j'ai oublié quelque chose, j'arrive. Vous pouvez ouvrir vos Bibles dans 1 Timothée 2. Et avant de lire, je voulais vous montrer ce t-shirt. Est-ce que vous le voyez bien? Est-ce que tout le monde le voit? Vous voyez ce qu'il y a marqué dessus? Alors, il y a une dizaine d'années, je le portais dans un rassemblement chrétien. Et dans ce rassemblement, il y avait une jeune femme qui s'était récemment convertie, qui m'a posé cette question. Est-ce que tu portes ce t-shirt ailleurs que dans un rassemblement de jeunes chrétiens? Question pertinente, n'est-ce pas? En fait, cette question, elle voulait un peu dire, est-ce que ta vie, elle est cohérente avec ce que tu affiches sur ton torse? Est-ce que tu es cohérent? Et est-ce que tu t'affiches de la sorte dans le monde où l'on pourrait te réclamer une explication pour ce qui a marqué dessus? Sous-entendu, est-ce que tu es vrai? Est-ce que tu es cohérent? Est-ce que tu es vrai? Être vrai, être cohérent, aligner ce que l'on croit avec ce que l'on dit ou ce que l'on fait, c'est tellement important, n'est-ce pas? Et c'est là bien les cœurs que Dieu recherche. Alors, on va voir ce matin dans le texte comment on peut être encouragé à être cohérent et vrai. Ce texte, il est extrait du coup de la lettre de Timothée. Et Paul a écrit cette lettre pour encourager à faire taire les fausses doctrines au sein de l'Église. On peut aussi voir qu'il a encouragé à bien utiliser la loi que Dieu a donnée, aussi à se focaliser sur l'Évangile pour qu'il façonne notre vie et l'Église, et vivre sa mission en gardant la foi. Alors, je vous propose de lire maintenant. Moi, j'ai choisi le texte dans la version Bible du Semeur, donc c'est dans cette version que je vais lire maintenant. 1 Timothée, chapitre 2. Je recommande en tout premier lieu que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les hommes. Que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu et qui commande le respect. Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur, ce qu'il approuve. Car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En effet, il y a un seul Dieu et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Il a offert sa vie en rançon pour tous. Tel est le témoignage qui a été rendu au moment voulu. C'est pour publier ce témoignage que j'ai été institué prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, pour enseigner aux non-juifs ce qui concerne la foi et la vérité. C'est pourquoi je veux qu'en tout lieu, les hommes prient en élevant vers le ciel des mains pures, sans colère ni esprit de dispute. Je veux que les femmes agissent de même, en s'habillant décemment, avec discrétion et simplicité. Qu'elles ne se parent pas d'une coiffure recherchée, d'or, de perles et de toilettes ou de toilettes somptueuses, mais plutôt d'œuvres bonnes, comme il convient à des femmes qui déclarent vivre pour Dieu. Que la femme reçoive l'instruction dans un esprit de paix et de parfaite soumission. Je ne permets pas à une femme d'enseigner en prenant autorité sur l'homme. Qu'elle garde plutôt une attitude paisible. En effet, Adam fut créé le premier, Ève ensuite. Ce n'est pas Adam qui a été détourné de la vérité, c'est la femme, et elle a désobéi au commandement de Dieu. Mais elle sera sauvée grâce à sa descendance. Quant aux femmes, elles seront sauvées si elles persévèrent dans la foi, dans l'amour et dans une vie sainte en gardant en tout le sens de la mesure. Voilà pour le texte d'aujourd'hui. Et je vais vous annoncer mon plan. Je ne vais pas pouvoir vous l'afficher, mais si vous prenez des notes, il s'agit de détonner. Alors, qu'est-ce que c'est détonner, le verbe détonner ? Imaginons que... Alors, nous, avec Manon, on habite en ville. Avant, quand on a rencontré Mallory, on était encore plus en ville. On était au foyer évangélique universitaire. Et il y a toujours un bruit de fond, en fait, qu'on le veuille ou non. On s'en rend compte d'ailleurs quand on vient dans cette zone industrielle un dimanche matin. C'est assez silencieux, mais en fait à Lille il y a toujours un bruit de fond. Et c'est le métro, c'est le périphérique, c'est les klaxons, etc. Et des fois il y a des bruits qui varient, et donc ça détonne. Donc on a un ton différent et on entend qu'il y a quelque chose qui se démarque du bruit de fond ambiant. Et ce que je vous propose, c'est d'être encouragé. Voir comment est-ce que nous pouvons, en tant que chrétiens, détonner. Détonnons par notre vie de prière, dans un premier temps. Ensuite, le deuxième point sera détonner par une vie qui réclame une explication. Une vie qui réclame une explication. Troisièmement, on verra comment détonner par une vie cohérente. Et enfin, détonnons par une recherche d'harmonie biblique entre hommes et femmes. Le premier point, détonnons par nos vies de prière. J'encourage donc. Donc, quand on voit un donc dans la Bible, c'est qu'il y a quelque chose avant qui nous parle. Ça veut dire qu'il y a eu un développement avant qui fait référence. Et on peut voir que dans 1 Timothée 1, que c'est pour garder la foi et une bonne conscience que Paul est en train d'écrire. Et ça devrait être garder la foi et une bonne conscience. Les désirs qui nous sont chers. Et pour ce passage aujourd'hui, Dieu veut nous montrer comment aligner notre manière de regarder, vivre, désirer sur ce qui est bien, ce qu'il approuve, nous dit le verset 3. Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur, ce qu'il approuve. Alors, on va parler un petit peu de la prière, courtement, dans ce premier point. Et à propos de la prière, je ne sais pas comment ça se vit dans votre église, la piété. Mais on se rendait compte que dans notre église, à Lille, on met souvent l'importance sur la lecture, la méditation. Est-ce que tu lis ta Bible? Combien? Comment? Et c'est excellent, c'est excellent. Mais on se rend compte aussi que, est-ce qu'on sait prier? Comment est-ce qu'on sait prier? Est-ce qu'on s'encourage à cela et est-ce qu'on réfléchit à comment est-ce qu'il est bon de prier? Et ça tombe bien, le texte d'aujourd'hui commence par un enseignement limpide sur ce que pourrait être notre vie de prière. Ce n'est pas le seul texte de la Bible, bien évidemment. Alors, quelques remarques, simplement. Visiblement, quand on lit le premier verset, on a l'impression que ça se répète. Et pourtant, dans le grec, il y a quelques termes qui varient, parfois différentes selon les versions. Et voici ce que l'on pourrait un peu comprendre. Que l'on adresse à Dieu des demandes. Autrement dit, des requêtes, des prières. Et cette demande, elle vient, ou ça, on peut dire aussi une pétition, c'est faire passer à Dieu une prière inspirée par un sentiment de besoin. On a le besoin de lui faire entendre quelque chose parce qu'on a besoin de lui. La conscience d'un besoin indispensable à une prière efficace, plutôt qu'une simple répétition. C'est une image bien connue qui dit que quand on veut décocher une flèche vers le ciel, il faut que la corde de l'arc soit bien tendue. Et c'est cette tension que nous devrions connaître quand on veut prier, c'est cette tension d'un besoin. J'ai besoin de dire à Dieu quelque chose. Est-ce que c'est une situation impossible? Une rechute dans nos travers? Une dispute avec mon conjoint? Un découragement? Un petit souci de la vie? Père est là et il attend qu'on s'adresse à lui avec la tension du besoin. Ensuite, on a un mot qui revient, c'est supplication ou intercession. C'est un des seuls endroits dans la Bible où ce mot grec apparaît. Il se rencontre ici, et chapitre 4, verset 5 ensuite. En fait, l'intercession, quand on en parle entre nous, quand on se le dit, on a plutôt l'impression que c'est souvent le fait de prier pour les autres. Mais ici, dans cet endroit-là, ça renferme l'idée d'une prière confiante. Une prière confiante. C'est pas limité à la prière pour les autres. C'est une prière confiante. Et une vie vécue en communion avec Dieu, elle donne de l'assurance dans la prière. Elle donne de l'assurance dans le fait que nos paroles ne sont pas perdues. Elles ne sont pas vaines, elles sont remplies de foi, de confiance. On peut dire à notre Père dans le secret, et on est sûr et certain qu'il entend ces paroles. La tension du besoin et une prière en confiance. Enfin, on a des remerciements. Des remerciements montrent dans quel esprit il convient d'offrir nos prières. C'est un esprit de gratitude pour les bienfaits déjà reçus et pour les bénédictions qui sont à venir. Et ce verset se termine pour tous les hommes. Alors, on pourrait disserter sur ce « tous les hommes ». Ce « tous », on le retrouve à plusieurs endroits dans le Nouveau Testament. Ça ne veut pas dire que tous seront sauvés, mais ça veut dire qu'il n'y a aucune catégorie de personnes, pour résumer, qui ne soit pas éligible au salut. Pour Dieu, il n'y a aucune catégorie de personnes qui ne soit pas éligible au salut. On voit verset 6 qu'il a offert sa rançon pour tous. Donc tous sont éligibles. Encore faut-il qu'ils le croient et qu'ils désirent le suivre. Et du coup, une application pour notre vie de prière, c'est est-ce que nous faisons des exceptions dans nos vies de prière? Est-ce qu'il y a des catégories de personnes dans nos esprits que nous excluons du champ des prières? Je vous laisse 10 secondes pour y réfléchir. Ainsi donc, animés du même désir du Père, que les hommes et femmes autour de nous soient sauvés, on va le voir plus développé tout à l'heure, prions sans exclure personne. Détonnons par un désir qui soit visible dans nos prières, caractérisé par la conscience du besoin de Dieu, cette tension que nous avons quand nous cherchons Dieu, le respect, la confiance que nous avons en lui, qui veut y répondre, et dans un esprit de gratitude. Un verset et déjà tant de choses à dire. Je passe au verset 2. Que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu et qui commande le respect. Deuxième point, détonnons par une vie qui réclame une explication. Alors, quel est le but de ce verset? Pourquoi est-ce qu'on devrait prier pour nos autorités? Qu'est-ce qui devrait nous motiver? Il est dit que ce soit afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille. Est-ce que c'est donc pour cela couler douce dans nos foyers, notre église? Est-ce que c'est d'avoir une vie pépère, sans lutte, sans vagues? Ici, dans la Bible Second 21, il est marqué paisible. Dans la Semeur, il est marqué à l'abri de toute violence. Dans la Second 21, il est marqué tranquille. Dans la Semeur, il est écrit dans la paix. La paix, c'est-à-dire l'absence de distraction d'ordre intérieur. Vous me suivez? Et chez moi, quand je préparais le message, Gilles et Lydia connaissent bien le quartier dans lequel nous habitons. Des fois, j'ai besoin de me lever pour marcher, réfléchir un petit peu à ce que je suis en train de préparer. Et souvent, je regarde par la fenêtre. Il se passe plein de choses par la fenêtre. Et il y a souvent ce dealer en bas de la rue qui est là. Et je me dis, mais si je lui citais ce verset, prier pour les autorités pour mener une vie paisible et tranquille, il serait tout à fait d'accord et il dirait certainement amen. Amen. Un quartier paisible et tranquille pour dealer peinard dans l'ombre. Et ici, c'est tout l'inverse. La vie paisible et tranquille, c'est pour briller, être une lumière de l'évangile. C'est bien différent du pas de vague, de faire notre petit truc dans notre coin. Et Paul nous encourage ici à prier Dieu de nous donner un cadre de vie qui nous permette de lui vouer un culte. Dans Romains 12, on sait qu'un culte raisonnable, c'est de s'offrir tout entier, n'est-ce pas ? Et que ce culte qu'on lui rend par nos vies soit lisible par notre entourage, pour qu'il puisse découvrir quoi ? L'Évangile, les versets 3 à 7. On peut les relire ensemble. Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur, ce qu'il approuve, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Versets 3 et 4. Dans ce verset, Dieu il nous partage ses aspirations profondes. Il aimerait tant que tous les hommes répondent positivement à son appel. Que tous puissent faire confiance au médiateur du verset 5 pour sortir sans crainte de leur calvaire afin d'être libres, libres. Et ces versets, c'est un peu la confession de foi de l'Église naissante, la base. Verset 5. En effet, il y a un seul Dieu et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, Jésus-Christ. Il a offert sa vie en rançon pour tous. Tel est le témoignage qui a été rendu au moment voulu. C'est pour publier ce témoignage que j'ai été institué prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, pour enseigner aux non-juifs ce qui concerne la foi et la vérité. Peut-être vous vous souvenez ce que s'écriait Job. Chapitre 16, verset 21. Du fond de sa douleur, accablé par des épreuves dont il ne discernait pas la raison, il disait « Puisse-t-il être l'arbitre, ou le médiateur, entre l'homme et Dieu ?» Il avait besoin d'un médiateur pour mettre un terme à sa souffrance, une explication. Et c'est certainement le cri d'angoisse de ceux qui sentent le besoin inné, mais bien souvent étouffé, de s'approcher de Dieu pour goûter à cette paix. Malheureusement, un cri étouffé. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, il m'est arrivé d'avoir cette pensée. Dans mon époque, ma culture, mon confort, ma sécurité. Finalement, est-ce que ce ne serait pas plus facile pour un chrétien de briller lorsque tout est sombre autour de lui ? Est-ce qu'on ne deviendrait pas mou, désœuvré, lorsque tout semble aller bien ? Est-ce qu'on est dans une anomalie de l'espace-temps ? Je vous cite un commentaire qui avait une phrase bien à propos. En temps de troubles politiques ou sociaux, il est facile de mourir pour le Christ, mais difficile de vivre pour lui. Je répète, en temps de troubles politiques ou sociaux, il est facile de mourir pour le Christ, mais difficile de vivre pour lui. Et nous qui sommes en paix, vivons-nous pour lui ? Dans une relative sécurité, on peut quand même dire qu'on est en combat. Et Timothée en parle, le livre de Timothée en parle. Chapitre 1, verset 18, chapitre 6, verset 12, Paul parle bien d'un combat, mais le combat de la foi. Et s'il n'est pas dans les circonstances violentes extérieures, il est en nous, dans l'effort intérieur des personnes qui se situent aussi dans notre zone d'influence, dans le monde dans lequel nous vivons. Au verset 4, « Car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Verset 7, « Pour enseigner aux non-juifs ce qui concerne la foi et la vérité. » Cette foi est la vérité, la Bible est formelle, nous la portons. Alors comment vivre une vie pour lui qui réclame une explication de ceux qui sont autour de nous ? Qui réclame une explication. C'est de cette vie-là dont il est question. À la fin du verset 2, une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu et qui commande le respect. Une vie qui réclame une explication en étant sel et lumière. afin que les gens qui nous voient vivre nous demanderont alors de rendre compte de l'espérance qui est en nous. On se rappelle ce verset de 1 Pierre 3. Et nous, mes amis, ce matin, est-ce qu'on a conscience d'être sur un champ de bataille ? Est-ce que tu as conscience que ton frère ou ta sœur a besoin de toi comme toi tu as besoin de lui ? Conscience que les attaques de l'ennemi sont féroces ? Pas étonné de ces attaques ? Conscient que tu es déjà vainqueur grâce à Christ ? Mais aussi réaliste de la pénibilité de la situation. En temps de paix, en temps de guerre. Mourir pour Christ, vivre pour Christ, un combat. Est-ce que tu es connu plutôt pour tes positions politiques, tes discours critiques contre les autorités, ou peut-être au contraire pour ton côté pas de vague qui te permet d'éviter les soucis? 10 ans de carrière là où tu es, personne ne connaît l'espérance qui est en toi? Ou bien est-ce que tu combats le bon combat ? Est-ce que tu évites les controverses qui n'ont pas de sens pour un chrétien ? Je fais référence au chapitre 1. Est-ce que tu travailles à un amour qui provient d'un cœur pur, d'une bonne conscience, d'une foi sincère ? Verset 5 du chapitre 1. Je te dis tout ça, peut-être tu es découragé, mais rassure-toi. Rassure-toi parce que Jésus a vécu la vie parfaite que tu ne peux pas essayer de vivre. Et il est le seul qui peut nous donner d'être vrai, d'avoir une vie cohérente avec ce que l'on croit. Car il complète pour nous nos insuffisances. Il s'est offert, nous dit le verset 6, pour que nous n'ayons plus à craindre nos faux pas, nos inconsistances, nos rébellions, nos péchés. Alors mon ami, si tu connais un décalage entre ce que tu crois et ce que tu vis, de ce qui se voit, parle-en à un frère, une sœur, viens voir un responsable, et surtout reviens au premier verset de ce chapitre, prie pour cela. Ainsi, aligné sur le désir du Père, que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, prions que nos vies réclament une explication, que nous puissions avoir un contexte, un cadre favorable pour cela. Cette explication, c'est l'Évangile. On arrive alors à un moment du texte où Paul aborde ce que ça veut dire en tant qu'homme et femme, vivre une vie cohérente qui rend honneur à l'Évangile. J'en suis à mon troisième point, détonnons par une vie cohérente. Aux hommes, la cohérence se vit en se basant sur le « c'est pourquoi ». Encore une fois, quand on voit un « donc », quand on voit un « c'est pourquoi », il y a certainement quelque chose avant qui est intéressant de savoir. Bah, en vertu de la vérité de l'Évangile, que l'on vient de voir, des versets 3 à 7, en toute piété, nous dit le verset 2, dans la version 21, moi j'ai notre attachement à Dieu. Paul encourage les hommes à être cohérents en vivant une piété, un attachement à Dieu. Et je vais le développer un peu plus en empruntant à Pascal Hermann, que vous devez connaître, qui avait un peu abordé ce sujet dans un de ses messages récemment chez nous. Il avait cité Jacques Blocher. Parler de piété, c'est parler de notre vie intérieure, de la relation personnelle de l'homme à Dieu, c'est-à-dire des relations intérieures. Et sans s'arrêter à l'intérieur. On ne peut pas parler de piété si on s'arrête juste à l'intérieur. Puisque ça commence par l'intérieur et ça finit par être visible à l'extérieur. Et on voit souvent ce mouvement des choses qui viennent de l'intérieur et qui finissent par être visibles. Jésus en parle très souvent, comme un serment attaché au cep qui finit par produire de bons fruits. Jésus parle souvent de semences, de choses intérieures et cachées, puis des choses révélées. De fruits visibles produits par l'invisible. La piété est donc ce qui se passe au-dedans de nous et qui finit par être visible. Ce visible, c'est la suite dans notre verset. Un attachement, verset 2, attachement à Dieu qui force le respect. Et non pas le contraire, on ne force pas le respect en réglant simplement nos comportements, en pratiquant des bons rites. c'est en aimant le Christ qui nous a aimés, en pardonnant comme il nous a pardonnés, en étant paisible comme il l'a été lorsqu'il s'est fait amener sur une croix. On a vu dans les deux premiers points que j'ai abordés avec vous, pourquoi prier, dans quel but. Alors si pour toi c'est vrai, ces versets 3 à 7, cet évangile, voici comment prier, dans quelle attitude de cœur. Paul nous enseigne à prier en tout lieu, toujours besoin de lui, partout. En élevant les mains. Les Juifs, à l'époque, élevaient les mains. Nous, on est plutôt comme ça, dans nos cultures occidentales. Mais c'est la même chose, c'est une attitude de respect. En élevant des mains pures, on ne se purifie pas nous-mêmes, mais confiant en l'œuvre de Jésus, à la croix. Conscient d'être gracié. Et là, on passe à ce qui se passe à l'intérieur. Sans colère, pas rebelle à ce que Dieu a fait ou ce que Dieu n'a pas fait, mais dans un esprit de gratitude pour ce qu'il a déjà fait, pour ce qu'il fait actuellement et ce qu'il fera. Sans colère, ni esprit de dispute, s'imposer aux autres, faire grâce sans opinion mesquine, ni circonstances passagères où nous serions irrités. Voilà l'attitude à l'intérieur. Alors pour nous les hommes, détonnons en étant cohérents. Dieu voit le cœur et on ne se moque pas de Dieu. Je fais une référence à Galatie. Pour Timothée, Paul était son papa spirituel. Timothée était son héritier spirituel. Et pour nous les hommes, quel héritage spirituel est-ce qu'on va laisser ? Quel héritage spirituel est-ce qu'on va laisser ? Quelle vie que Dieu approuve est-ce qu'on veut vivre ? Et les femmes, pour vous, comment est-ce que la cohérence se vit ? Égalité, de même, dit Paul. De la même manière, en fait. Mais Paul rajoute quelque chose. S'il y a cette similarité de cœur qui va plaire à Dieu, Paul parle avant tout d'un parement intérieur, une histoire de cœur. Je vous cite un commentaire. Cette remarque ne fait pas référence uniquement... Je vais relire le verset 10, c'est mieux. Verset 9. « Je veux que les femmes agissent de même en s'habillant décemment avec discrétion et simplicité, qu'elles ne se parent pas d'une coiffure recherchée d'or, de perles ou de toilettes somptueuses, mais plutôt d'œuvres bonnes, comme il convient à des femmes qui déclarent vivre pour Dieu. » Donc cette remarque ne fait pas référence uniquement au fait de ne pas susciter des désirs chez les hommes, mais aussi et surtout au fait d'être simple, modeste, de faire preuve de discernement et de ne pas parader. Toutefois, il faut noter que les choses dont Paul fit mention en particulier n'ont rien de mauvais en soi, mais elles sont malvenues lorsqu'elles témoignent d'un sens des valeurs faussées. Paul ne leur demande pas de se rendre peu attrayantes, mais tout simplement de rejeter le sens des valeurs des gens de ce monde en ce qui avait trait à la beauté pour adopter plutôt les normes célestes. La pureté du cœur, une vie paisible. Et on ne s'attendrait à rien de moins des femmes qui font profession de foi. C'est le sens du verset suivant. Verset 10, mais plutôt d'œuvres bonnes comme il convient à des femmes qui déclarent vivre pour Dieu. Un exemple de définition d'œuvre bonne, selon 1 Timothée, un peu plus loin, chapitre 5, verset 10. Avoir été une épouse fidèle à son mari, elle doit être connue pour ses œuvres bonnes, avoir bien élevé ses enfants, ouvert sa maison aux étrangers, lavé les pieds de ceux qui appartiennent à Dieu, secouru les malheureux et pratiqué toutes sortes d'œuvres bonnes. Vous n'êtes pas toutes dans la même situation matrimoniale, dans la même situation culturelle. Mais il y a déjà un certain nombre d'exemples qu'on peut voir, qui traduisent l'intérieur du cœur que Dieu approuve. Ainsi, alors que nous savons que tout est accompli en Christ, ce n'est pas une liste de comportements contraints par des efforts pour tenter de s'acheter une dignité devant Dieu ni devant les hommes. Mais c'est la recherche d'une vie intérieure paisible, qui déborde dans le visible par les acquis de Jésus-Christ. Lui qui s'est substitué pour vivre la vie parfaite et connaître la mort que nous méritions. Bref, une juste compréhension de l'Évangile donne un cœur, la pureté d'un cœur racheté et paisible. Ainsi, hommes, femmes, tels que Dieu nous a fait, détonnons. Détonnons en étant cohérents avec ce que nous croyons. On l'a vu, l'Épître aux Timothée permet de montrer comment l'Évangile façonne la vie et l'Église, dans les relations aussi entre hommes et femmes. On voit bien comment le péché dégrade l'identité sexuée d'hommes et de femmes. En nous-mêmes, autour de nous, combien l'Évangile peut restaurer une harmonie pour nous-mêmes et pour l'autre sexe avec qui nous partageons tant dans nos foyers, dans nos églises. J'en arrive à mon dernier point, détonnons par une harmonie biblique entre hommes et femmes. Quelques propos en introduction. Le péché qui dégrade l'identité sexuelle, il a bien sa place dans notre monde. Je pense que vous êtes bien avertis de cela. Par exemple, à ceux qui se posent la question du féminisme, est-ce que peut-être vous êtes convaincus par cela? Peut-être que vous êtes irrités par cela, peut-être que ça vous remet en question, peut-être que ça vous trouble, peut-être que vous vous sentez dépassé, peut-être que ça vous révolte. Avouez que ça sent pas trop la vie paisible, ça. Mais attendez de voir le mouvement du balancier avec le masculinisme qui arrive. En fait, on ne trouvera pas dans les raisonnements humains la bonne note. Et pourtant, la question du genre, du sexe, est centrale dans notre société. Et je vous propose, dans mon dernier point, de détonner, en gardant le cap, ce bon vieil évangile, une vérité biblique, un ordre créationnel, qui fait référence à l'harmonie que Dieu avait créée dans l'Éden, en la Genèse. Et c'est rien de nouveau. Et c'est en accord avec vos responsables avec qui on partage la même confession de foi à Lille que je vais aborder ce sujet. Sur le rôle de la femme et de l'homme, si vous ne le savez pas déjà, en nos églises Alliance pour Christ, on a une position qui est clairement complémentariste. C'est-à-dire que les hommes et les femmes sont égaux, ils sont faits à l'image de Dieu et ils sont complémentaires. Donc, dans une harmonie, avec des rôles bien différents dans les foyers et l'Église. Et on ne place pas cette position, en tout cas dans notre Église, sur le même plan que l'Évangile, et nous œuvrons ensemble avec des frères et des sœurs qui ont d'autres positions sur le sujet. Mais le fait qu'il existe des interprétations concurrentes n'exclut pas que l'une d'entre elles soit juste, ou du moins plus correcte que l'autre, n'est-ce pas ? Nos cœurs et nos pensées doivent être soumis à la parole de Dieu, je vous partage aujourd'hui, et il est impératif de ne pas laisser nos désirs et nos préjugés primer sur l'enseignement des Écritures. Nous devons donc être assez humbles pour reconnaître que nous nous trompons sur beaucoup d'aspects et laisser les Écritures corriger notre manière de penser. Je cite un commentateur. Accepter que la parole soit notre autorité n'a pas grand sens si nous ne l'acceptons que tant qu'elle nous conforte dans notre opinion personnelle. Accepter que la parole soit notre autorité n'a pas grand sens si nous ne l'acceptons que tant qu'elle nous conforte dans notre opinion personnelle. Voilà pour ces propos d'introduction. Je reviens au texte, verset 11. Dans certaines traditions, dans la Colombe notamment, il est parlé du fait que les femmes restent en silence. Ce terme grec, esikia, ne désigne pas seulement le silence total ou le fait de ne pas parler. Il signifie plutôt être réservé, paisible, bien discipliné et tranquille. Il y fait référence dans les Actes ou dans 2 Thessaloniciens également. Cette vie paisible, attachée attaché à l'Évangile, pas dans un esprit de revendication, dans une attitude qui manifeste une compréhension et une acceptation du dessein de Dieu pour la race humaine. Comme ailleurs dans 1 Corinthiens 11, Éphésiens 5, Paul fonde son point de vue concernant les relations entre hommes et femmes au sein de l'Église sur le récit de la création. En Genèse 2, c'est le dessein fondamental de Dieu. Et aujourd'hui, dans une Église complémentariste, c'est-à-dire qui n'ordonne que des hommes qualifiés en tant que responsables, comme la mienne ou la vôtre, il est possible qu'il y ait plus d'une femme pieuse qui regarde 1 Timothée 2, verset 12, « Je ne permets pas à une femme d'enseigner en prenant autorité sur l'homme, qu'elle garde plutôt une attitude paisible. » Qu'elle regarde ce verset et qu'elle se demande « Que veut dire le fait que je n'ai pas le droit d'enseigner ou d'exercer une autorité sur l'homme ? Qu'est-ce qu'elle doit en conclure et pourquoi ?» Si elle se pose cette question, c'est une bonne question. Dans un contexte où, verset 10, les femmes qui affirment honorer Dieu sont appelées à s'instruire, donc à rechercher dans la parole des réponses. Verset 11. Ça implique donc de mettre en pratique ce que la Bible enseigne. Les femmes ne doivent donc pas exercer l'autorité ou enseigner sur l'homme dans l'Église. Cela fait partie de l'argumentation de Paul à un niveau plus large, selon laquelle l'Église est le foyer de Dieu et les hommes en sont responsables, au même titre qu'ils le sont de leur propre foyer. Je renvoie les hommes à cette question que j'avais tout à l'heure. Quel héritage spirituel est-ce que nous laisserons ? Une nouvelle fois, Paul ne fonde pas son interdiction sur un raisonnement culturel, mais sur l'ordre créationnel de Dieu. C'est assez clair. Verset 13. En effet, Adam fut créé le premier, Ève ensuite. Alors, une autre question qu'on pourrait se poser. Est-ce que 1 Timothée 2, verset 12, encourage la femme... ce verset 12 encourage la femme pieuse à éviter ? Dans notre contexte occidental, plus directement, elle doit éviter d'éprouver du ressentiment à l'égard de la place que certains hommes ont été appelés à occuper et pour laquelle ils ont été équipés. De Jésus aux apôtres et aux églises du Nouveau Testament, nous constatons que ce sont des hommes, même si ce n'est pas forcément mérité, et non des femmes qui ont été appelées à être les responsables des assemblées. Les femmes ont des dons spirituels essentiels, notamment des dons d'enseignement et de direction. On connaît tous des femmes qui sont de grandes organisatrices, administratrices, communicatrices, dirigeantes, et personne ne veut gaspiller ces dons. Mais la Bible stipule certaines façons d'utiliser ces dons. Les femmes peuvent et doivent exercer de puissants dons d'enseignement à condition que ce ne soit pas sur des hommes. Et je vais éluder aujourd'hui les versets 14 et 15 qui sont discutés, mais si vous êtes intéressés, je peux faire passer de bons articles qui permettent de se positionner éventuellement. Alors, pour vous, mes sœurs, encouragez-vous à grandir dans les rôles que Dieu vous a confiés et ne vous privez pas de vous voir entre femmes pour grandir dans l'instruction de la parole. J'en arrive à ma conclusion. Si tu as vécu cela, cet évangile, si c'est vrai pour toi, que tes désirs se sont alignés sur ceux de Dieu, et pour que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Est-ce que tu es vrai dans ce que tu confesses et dans ce que tu vis ? Par rapport à ce que tu crois, est-ce que tu es cohérent ? Je l'ai répété, Paul a écrit cette lettre notamment pour nous aider à nous focaliser sur l'Évangile, pour qu'il façonne notre vie et l'Église. Que nous vivions cette mission à laquelle on est appelé, en gardant la foi, une foi sincère, une bonne conscience, un cœur pur. Et Jésus-Christ, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, a offert sa vie en rançon pour tous. Et ça détonne. Ça détonne. Alors nous aussi, détonnons par notre vie de prière, détonnons pour une vie paisible qui réclame une explication par ceux qui nous voient vivre. Détonnons, par une vie cohérente où la transformation intérieure se voit par des fruits visibles. Et le fruit qui est développé ici, c'est la paix du cœur. Tranquille. La paix. Et enfin, détonnons par des relations hommes-femmes harmonieuses où nous assumons humblement et avec joie l'ordre créé par Dieu.